Bonjour, j'ai trouvé excessivement passionnante l'émission d'hier là, sur le quai Branly, et je me suis posé quelques questions, à savoir que j'aimerais bien savoir s'il existe dans les musées africains, là en l'occurrence au Mali ou en Côte d'Ivoire, des œuvres qui auraient été plus prendre sur nos églises, sur nos cathédrales, des œuvres qui ont un rapport avec l'art roman, l'art gothique. Et j'aimerais aussi savoir qu'est-ce que on pourrait penser, par exemple, à l'époque où il y avait la conquête arabe était très florissante sur l'Europe. Est-ce qu'à ce moment-là, les Arabes ont pris aussi dans nos églises des crucifix, des ciboires, enfin toutes sortes de choses qui viennent de chez nous, les ont ramenés dans leur pays, hein, en Orient, et en Algérie, au Maroc, etc., les ont ramenés, et puis, quelle serait notre attitude? Est-ce qu'on voudrait éventuellement les récupérer ou pas? Ce sont des questions intéressantes, hein, qui mériteraient d'être posées, qui nous interpellent, puisque on a des choses qui viennent de chez eux, pourquoi pas à l'inverse. Voilà, je vous salue, je vous remercie, je suis Claude de Sucy-en-Brie.
Bonjour Daniel, voilà, juste pour dire que j'irai faire un tour au musée du Quai Branly quand il y aura un musée Botticelli à Ouagadougou, ce qui me paraît une bonne idée. Voilà, bonne journée à vous, ciao.
Je voulais répondre aux messages d'aujourd'hui concernant le musée Branly, car hier j'en ai pas laissé, pensant que tout le monde serait d'accord avec moi, et en écoutant les messages d'aujourd'hui, je me rends compte que non. Première chose, il est évident que les muséologues, quand ils veulent, ils peuvent expliquer le contexte. Enfin, j'ai fait l'école du Louvre, je sais de quoi je parle. Les musées, on sait les faire, on sait expliquer le contexte, on sait faire des panneaux pour ça. Donc s'il y en a pas, c'est déterminé. Deuxièmement, le rapport à la culture africaine, c'est évident qu'il est complètement faussé. Enfin, je vois pas comment on peut être intelligent avec un musée pareil. J'ai visité à Bafoussam des musées africains en Afrique. Il est évident qu'il y a un guide qui vous explique pourquoi le fauteuil, là, il fait 2 mètres de haut, qui explique tout le contexte. Et que quand on arrive à Paris, on trouve ça beau et c'est tout. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que les Africains, on leur a tout pris. On leur a pris leur main d'œuvre. On leur a pris leur énergie, on leur a pris tout ce qu'il y avait sous la terre. Et maintenant, on leur prend aussi leur matière artistique, enfin, leur âme avec tous ces objets. C'est complètement révoltant. Je comprends pas que les gens qui ont appelé hier s'en soient pas aperçus. En plus, Daniel, il explique très bien en quoi c'est révoltant. On leur pique tout. Et en plus, quand ils sont chez nous, on n'a qu'une idée, c'est les foutre dehors. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point, mais c'est dégueulasse. Enfin, je sais pas. On a l'impression que l'Afrique, elle est faite que pour qu'on l'utilise, pour qu'on la pressure au maximum, et que les Africains qui sont chez nous, ils sont là que pour être bafoués tous les jours. C'est ça qui est pas normal, et c'est ça qu'il faut qu'on prenne tous. Il y a un mépris vis-à-vis de l'Afrique et vis-à-vis des Africains qui est pas tenable. On peut pas continuer à traiter les gens comme ça. Voilà. À bientôt. Merci.
Dans la dernière revue Urbanisme, septembre-octobre 2006, un magnifique édito de Françoise Chauet. Donc Françoise Chauet qui nous parle un peu du musée du Quai Branly. L'article s'appelle « Branly, un nouveau Luna Park est-il nécessaire ?» Certainement, cet article va apporter un peu d'eau au débat actuel sur le musée. Au revoir.
C'est Rémi à Saint-Nazaire à propos de la visite du Quai Branly. Je tombe sur, en 1937, Attention, c'est pas n'importe qui, c'est Blaise Cendrars, l'aventurier et poète, qui écrit ceci à propos de la spiritualité de l'Afrique. Alors je cite. « On oublie communément que dans les cargaisons de bêtes, de sommes et de main-d'œuvre que les bateaux négriers déversaient sans répit sur les côtes d'Amérique, figuraient non seulement des représentants de tous les peuplades d'Afrique, dont chacune était plus ou moins cotée par les marchands, pour ses qualités de résistance physique et selon son caractère social différemment apprécié, mais que, dans ces troupeaux de noirs, dans cette masse anonyme, figuraient également des individus fortement évolués, des forgerons, des sorciers, des médecins, des tambourineurs, des féticheurs, des sculpteurs, des conteurs, des poètes, des vociférateurs, des conjurateurs, des prêtres et des guerriers, en un mot, des fils de rois que l'on vendait pêle-mêle avec le restant du bétail humain. Et ce sont ces quelques individus perdus dans la foule des esclaves distribués dans les plantations, ce sont ces parias, stigmatisés dans l'histoire sous le nom de nègres marrons, parce qu'ils ne se soumettaient pas, etc., qui ont été le vin où l'esprit a pénétré, l'esprit d'Afrique a pénétré l'Amérique. Voilà, je je résume à la fin. Voilà, c'était un message, je crois, de 1937, au moment où, bien avant, voilà, c'est comme ça. Ils sont en avance, les poètes et les aventuriers, surtout quand c'est de Blaise Cendrars. Au revoir et bon courage, on continue.
Daniel, je tiens à te remercier pour tes deux émissions sur l'objet africain. C'est vraiment bien. On dit toujours que objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme? Oui, c'est vrai, ces objets-là, ils ont vraiment, vraiment une âme qui s'attache à notre âme africaine. Merci beaucoup. Merci pour ce qu'il a fait. On a profané l'âme africaine, on a profané tout, surtout quand il s'agit de colonialisme, ce qu'ils ont fait sur le continent africain. Merci beaucoup. Daniel, je profite en même temps pour te dire qu'il va avoir un colloque sur le mémorial de l'outre-mer, sur la colonisation à Marseille, samedi 21 octobre, toute la journée à la fac Saint-Charles. Daniel, essaie de passer ce message que nous invitons tout le monde, tous les Marseillais, à la fac Saint-Charles le samedi 21, parce que Gaudin est en train de construire un mémorial pour rendre hommage à la colonisation. Merci Daniel, merci, merci beaucoup de Marseille. À bientôt. Emmanuel.
Merci, merci, merci de Paris. Merci pour vos messages. Eh bien, on continue aujourd'hui. Hier et avant-hier, c'était le musée du Quai Branly avec des jeunes Africains venus de Cachan, venus des squats de Cachan. Eh bien, on continue la piste. Et cette fois-ci, on part à Bamako avec Antoine Chao et on va retrouver Aminata Traoré. Pourquoi ? Parce que s'est tenu une semaine à partir du 29 septembre, une semaine pour réfléchir justement sur la migration des Africains, des Maliens en l'occurrence, mais pas seulement, vers la France. Pourquoi ? Parce qu'il y a un an, enfin c'était l'anniversaire des drames de Ceuta et Melilla, vous vous souvenez, ces Africains ces migrants africains sur lesquels la police espagnole avait tiré, on discute encore le bilan, tant la vie de ces hommes n'a qu'une importance toute relative. On avait dit 5 morts à l'époque, et le bilan actuel est de 14 morts, d'autres disent beaucoup plus. C'est sur ces Africains, ces jeunes Africains, qui fuient la misère, qui fuient le désespoir, qui veulent entrer dans la forteresse Europe, parce que c'est bien d'une forteresse dont il s'agit, dont nous allons parler aujourd'hui dans la Basse. J'y suis après les messages que voici, que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Et merci à tous les gens qui sont venus au Zénith lundi soir dernier pour le concert de lancement de la tournée Aux Urnes, etc. J'ai bien dit Aux Urnes, etc. Merci aussi à Daniel Mermet et à Antoine Chao d'être venus sur la scène courageusement. Voilà, la tournée va partir en janvier jusqu'au mois de mai, sous les chapiteaux de Chaudrome, partout en France. Alors, j'espère que vous serez tenus au courant des dates et des lieux dans l'émission. Voilà, ciao.
Ce soir, à 20h, au Café Repère de Tonquédec, dans les Côtes d'Armor, dans le Trégor, près de Lannion, soirée débat avec le syndicat CGT-EDF sur l'énergie. Débat qui sera précédé de la projection d'un film sur la privatisation de EDF, GDF, etc. Le Café Repère se trouve toujours au Café de Bretagne, route de Bullien, à Tonquédec, entre Lannion et le bourg de Tonquédec. Ce soir à 20h, donc, soyez nombreux, ce sera intéressant.
Bonjour, je fais partie d'une association Lire et Écrire 94 qui est basée à Valenton dans le Val-de-Marne. Elle lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisation et nous recherchons des bénévoles pour une soirée par semaine. Merci d'appeler le 01 48 86 83 66. 01 48 86 83 66. Là-bas, si j'y suis, doit continuer. Nous avons pétitionné et maintenant nous écoutons. Bon courage.
Je peux témoigner, je sais, je veux, je peux témoigner pour le moment que j'ai vu mourir dans le désert lorsque nous quittions du Niger pour Tamaracet. C'était un Guinéen. Et au Maroc, je peux témoigner, il y a beaucoup de gars qui ont été enterrés par les gardes dans la forêt du Maroc. Je peux le témoigner.
Et maintenant, qu'entendons-nous? Au lieu de se sentir interpellé par ce qui s'est passé il y a un an.
Voici Ceuta, enclave espagnole en territoire marocain. À droite le Maroc, à gauche l'Espagne. Entre les deux, 8 km de barbelés, de caméras, de miradors. La forteresse européenne est bien gardée.
On en a marre, je crois que vraiment, tous ces manigances qui sont que de faire, je crois qu'on va se révolter.
C'est pas parce qu'il fait chaud qu'il faut s'énerver.
Les ministres de l'intérieur des pays riches d'Europe décide de verrouiller davantage ses frontières et sont prêts à récompenser les dirigeants africains qui acceptent de surveiller leurs propres ressortissants.
Nous partons en Europe parce que nous n'avons pas la place dans la société. Si nous avons la place dans la société, pourquoi aller en Europe?
Ça y est? Tout le monde est parti, ouais. Les élections au palais de congrès, centre de conférence internationale.
Toi, tu y vas alors?
Je vais.
D'accord. Dans le prochain camion?
Non, moi je vais sur ma moto.
Tu m'emmènes?
Avec plaisir.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas j'y suis avec Antoine Chao à Bamako, le forum des migrants.
Flight number 2, arriving from...
Ibrahimé.
Ibrahimé.
Ces deux très jolis mots, hein, Sula, Séoula, Mélila, on dirait des noms de fleurs ou les prénoms d'une bien-aimée, exotique. C'est le nom de deux enclaves espagnoles tout au nord du Maroc. Et c'est là, vous vous en souvenez, il y a un peu plus d'un an, qu'a eu lieu ce drame de contre des tirs contre des migrants africains. C'est devenu presque une figure familière que celle de l'Africain famélique qui traverse le désert, qui traverse le Sahel, qui traverse le Sahara, qu'on suit à travers la Libye, qu'on retrouve à Lampedusa, qu'on retrouve à Gibraltar, qu'on retrouve maintenant aux Canaries, et qui sont par milliers de ces Africains de l'Afrique noire qui n'ont qu'un but, qu'un espoir, qu'un rêve, c'est entrer dans cette Europe. On connaît cette histoire, mais la façon dont elle est présentée le plus souvent nous fait craindre, nous fait redouter une invasion, une sorte de tsunami de la pauvreté qui viendrait perturber notre Europe prospère. Mais en même temps, il y a une culpabilité là-dedans, il y a une mauvaise conscience qui nous hante et qui nous travaille. Bien sûr que des hommes politiques, des démagogues savent exploiter ce que nous avons de plus moche et de plus bas, c'est-à-dire la xénophobie, la haine de l'autre, la crainte de l'étranger, surtout s'il est sombre, de peau et d'allure. On connaît ces exploitations et elles sont à l'œuvre encore aujourd'hui. On connaît cette histoire-là, mais il y a aussi quand même les Africains eux-mêmes, en l'occurrence. Que font-ils? Comment réfléchissent-ils à leur propre histoire, à leur propre destin? Est-ce que vraiment le désespoir et la misère les empêchent, les inhibent au point de ne pas pouvoir se rendre compte de ce qu'ils vivent eux-mêmes et de ceux qui les poussent au-dehors de leur au-dehors de leur patrie, au-dehors de leur sol, au-dehors de leur en dehors de leur famille. Voilà pourquoi avec Antoine Chao, on a été intéressé d'aller à Bamako, qui là est lui à Bamako, suivre finalement le moment où les Africains se prennent en charge eux-mêmes, essayent de réfléchir à leur propre histoire. Avec évidemment, c'est un reportage que vous allez entendre, vous, qui vous est destiné, mais le forum, ce forum des migrants n'était pas destiné seulement aux Européens, seulement aux Français, mais aux Maliens eux-mêmes, et en l'occurrence aux habitants de Bamako. Un autre Mali est possible, en tous les cas c'est un forum pour un autre Mali qui prend pour prétexte, et quel prétexte, l'anniversaire des massacres de Séoula et de Melilla. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, sur France Inter.
Tels des conteurs ou des griots, les fils de Jolof viennent vous raconter l'histoire de l'Afrique.
Notre Afrique.
De ces hommes venus de la mer fuyaient la terre de nos ancêtres. Ce furent d'abord les missionnaires avec leur Bible. Ensuite, ce furent les canons et les fusils. Ils piétinèrent sur nos traditions et nos cultures, en nous imposant leur culture, en nous arrachant nos matières premières et en nous appauvrissant de nos richesses matérielles et morales. À toi je m'adresse maintenant. Écoute battre les Yoruba de Sejou. Écoute battre les Djundjung du Saloum. Et souviens-toi. Souviens-toi de ce Sundiata Keita pliant la barre de fer pour se relever. Souviens-toi de ce Malcolm X bravant la furie du Ku Klux Klan pour demeurer un homme libre. Enfin, souviens-toi de ce Thomas Sankara mort pour le respect de son Afrique. Et de tous ces grands hommes, tu devras apprendre. Apprendre à avancer. Avancer à genoux. Avancer en rampant. Avancer couché même s'il le faut. Mais tu devras avancer pour prendre une revanche. Une revanche sur cette histoire de ton Afrique.
Don't go to big dentity. Mam, yeah, we yet a yeah, we yeah, watch it all by the subdi jangan gilham. But now Sarah Hamalko Helanko Hamelko one ko yonu ham ham. We saku, di baku, DJ Bafalu Fatim Bolo, di takali Japo. Say mu don't taste bullies or domo Africa, Bahole Africa. Nyaku Japo, Tahna Teruanda, DJ Jangoro. Nyakun Gorgunguru, Taisub, Tahna Bolo Tagunu, Hirungayo Sangunu, Bolo Tagunu, Hirungayo Sangunu, Bolo Tagunu, Hirungayo Sangunu.
Actuellement, nous sommes en route pour le palais de congrès. Si tu vois que ces jeunes-là veulent aller en Europe parce qu'il n'y a rien ici, l'Occident nous a piégés. J'ai des cousins qui ont tenté de l'aventure. Il y a d'autres qui sont retournés. En 2005, moi, j'étais à Gao pour une formation à Gao. Et j'ai croisé un de mes cousins à Gao. Ça lui faisait plus d'une année. Tout le monde croyait qu'il est déjà en Espagne. Mais il était à Gao. Il souffrait là-bas. Il a honte de retourner. Il n'a rien. C'est la porte de l'ambassade de la France.
Ah, c'est dans un beau quartier, hein. Ouais, il y a des grands espaces.
Il y a des grands espaces.
Ouais.
Ouais. Merci.
Il nous laisse passer là, ouais. Ouais. Et donc là, on arrive au bord du fleuve quand même.
On arrive au bord du fleuve, Niger.
Ouais.
Nous sommes à une minute de centre de conférence internationale.
Mais on va passer le pont.
Ouais, non, l'échangeur surtout. Bon, ça, c'est le deuxième pont. Bon, bientôt, d'après nos chefs d'État, on aura un quatrième pont. Il y a toujours trop de trafic et puis la population s'accroît, hein, d'une manière incroyable. Les gens de la campagne là, quittent la campagne pour venir chercher leur pain en ville. Hein. Donc, tu sais.
Là, c'est la brigade fluviale.
Ouais, ça, c'est la brigade fluviale.
Alors là, on longe le fleuve. Hein.
Ouais, on longe le fleuve.
Il y a du monde. Hein.
Il y a du monde.
Il y a du monde.
Donc, le policier que vous voyez, ce policier-là,
ouais.
il a été décoré
Lui là?
Il a été décoré lors du 29 septembre. C'est l'un des meilleurs policiers de la circulation malienne.
C'est vrai que ça roule bien maintenant.
Ça, hein. Ouais, ça roule bien.
Ah ouais. Donc là, c'est la banque française là. C'est.
Oui.
Ça s'appelle la BCIM.
La BCIM, Banque internationale pour le commerce au Mali, je crois.
Et qui ressemble à notre BNP, à nous.
Oui.
Mais ils ont maquillé les plaques.
Ouais, donc maintenant, nous sommes arrivés au sein de conférence internationale. Mais je vais garer ma moto au parking. Flagge. Anjigana Rome.
Mesdames et messieurs, chers frères et amis, il y a un an, s'est déroulé dans les deux enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla, au Maroc, donc en terre africaine, un drame qui pour nous a la même signification que d'autres tragédies qui sont commémoré de par le monde. Pour la première fois, la gestion des flux migratoires a été gérée de la manière la plus brutale. Des centaines de jeunes gens et de jeunes femmes partis du Mali, du Sénégal, du Congo, du Cameroun, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, se sont retrouvés à la frontière sud de l'Europe.
Aminata Traoré.
Sans savoir pourquoi. Mais ils savaient tous qu'ils allaient à la recherche d'un emploi et d'une vie digne. Certains ont vécu dans les forêts de manière dramatique. Je crois qu'ils sont mieux placés que moi pour vous en parler. Depuis lors, pour avoir durci davantage les politiques migratoires, les autorités, les pouvoirs publics d'Europe ont pratiquement obligé les jeunes d'Afrique à emprunter des voies de plus en plus risquées. De sources sûres, nous savons aujourd'hui que 4000 personnes ont péri dans leur quête d'Europe. Aujourd'hui, la société civile africaine, européenne, le mouvement social mondial a décidé de rendre hommage à ces hommes et ces femmes de courage et de mérite qui partent tous dans l'intention de revenir un jour. Je voudrais, pour commencer, que nous observions une minute de silence en leur mémoire.
Donc nous sommes ici dans la famille de Philly Dambélé, qui est l'une des victimes maliennes de Ceuta. Il était avec ses trois frères qui ont pris une balle. Et Philly est celui qui a pris une balle au ventre et il est mort aussitôt. Il ne pouvait pas courir avec le corps de Philly qu'il a dû abandonner. Et puis plus tard, on a su qu'Adama qui était blessé, et lui il est resté pendant longtemps là-bas. Bon, ils l'ont évacué ici. Tu étais à Ceuta ou Melilla?
Un gros comme Melilla.
Melilla, quoi. Il est handicapé, je ne sais pas s'il récupère un peu. Il y a un autre aussi qui a perdu, tu vois, une jambe. La famille d'Amélé est l'une des familles endeuillées, quoi. Tu ne peux pas s'empêcher de pleurer chaque fois qu'on vient, c'est pas.
Voici Ceuta, enclave espagnole en territoire marocain. À droite le Maroc, à gauche l'Espagne. Entre les deux, 8 km de barbelés, de caméras, de miradors, la forteresse européenne est bien gardée.
Le grillage est équipé de capteurs. Dès qu'un homme s'approche ou tente d'escalader, une alarme se déclenche et les caméras signalent immédiatement où l'incident se produit pour que nos hommes interviennent.
Malgré tout, certains réussissent à passer, avec une échelle de fortune. L'Europe, leur a-t-on dit, est un paradis, Peut-être déchanteront-ils eux aussi, mais pour l'instant, le paradis n'a pas de prix.
Le barbelé, voilà l'avenir, voilà notre horizon, voilà l'horizon de la planète des barbelés. Des barbelés pour séparer la partie riche du monde de la partie pauvre du monde. On est en train de construire un véritable mur entre les États-Unis et le Mexique. Et nous, en Europe, nous construisons ces murs, là aussi, ces barbelés. L'avenir, c'est le barbelé. La question, c'est de savoir si c'est exactement ce que nous autres, Français, Européens, souhaitons vraiment. Depuis le début de cette année 2000, 27 000 clandestins ont débarqué à bord des cayucos, c'est-à-dire des pirogues, vers les Canaries. En septembre, ce mois dernier, aux Canaries, on a enregistré 7 600 entrées irrégulières de migrants africains, mais pas seulement africains, d'autres viennent du Pakistan ou du Sri Lanka, d'Asie comme on dit. Et depuis le début de cette année, on estime les morts par noyade au chiffre de entre 500 et 3000 au cours des 6 premiers mois de cette année. Les récits, vous en avez sans doute entendu ou vu de ces traversées. Là, je parle de la traversée vers les Canaries. Ils sont particulièrement atroces, monstrueuses. Des scènes qui, auprès desquelles le radeau de la Méduse est une partie de plaisir. Sans parler, évidemment, de tous ceux qui, je les évoquais, se lancent à traverser le Sahel, le Sahara, pendant des mois, parfois des années, avec des récits absolument terribles, tout ça pour essayer d'arriver, de vivre mieux et d'arriver dans des pays plus prospères. Et bien sûr, entre nous, la France par exemple, et cette misère du monde, il y a des pays que nous soutenons pour faire le boulot à notre place, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, pour ce qui concerne Lampedusa, ou la Libye, dont les soutiens sont assortis à leur efficacité à retenir cette misère noire loin de nos assiettes et de nos centres commerciaux. Mais c'est pas le cas de tous, bien évidemment. Il faut contenir notre compassion et aussi ne pas nous sentir coupables personnellement, individuellement, de ces inégalités. Par contre, il faut se sentir évidemment responsable, non pas coupable, mais responsable, et lutter contre cette doctrine inégalitaire qui, chaque jour, l'emporte un peu plus. Et voilà, c'est le cas de José Palazón, qui est un professeur qui habite à Melilla, justement, et qui assiste et qui participe à ce forum des migrants de Bamako.
Okay. Alors, José, toi, le témoignage de ce jeune garçon qui était à Melilla et qui a reçu une balle, toi, tu l'as vécu, mais de l'autre côté de la barrière, parce que tu habites à Melilla.
Sí, efectivamente, por ejemplo, el día 6 de octubre.
Oui, justement, le 6 octobre.
Yo vi como un helicóptero español, el barrio chino de Melilla, una zona que se llama el barrio chino.
Moi, j'ai vu un hélicoptère espagnol dans le quartier qu'on appelle le quartier chinois, à Melilla.
Que desde el lado español iluminaba la parte marroquí.
Qui donc depuis le territoire espagnol éclairait le côté marocain.
Entre las dos vallas había un montón de inmigrantes heridos que estaban, saltaban, se caían, disparaban y caían entre las vallas heridos de bala.
Donc entre les deux grillages, donc le grillage espagnol et le grillage marocain, il y avait toute une il y avait un grand nombre de migrants qui tombaient des grillages et qui étaient là emprisonnés entre les deux grillages.
Un griterío enorme, gritos de dolor, gritos de...
Donc on entendait des cris de douleur.
Y en el otro lado, en el lado marroquí, había otro helicóptero.
Et du côté marocain, il y avait un autre hélicoptère.
Desde el cual se oían tiros, se oía pa, 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 pa. El helicóptero español alumbraba el campo. Si
et là, on entendait des tirs d'armes à feu.
Porque los inmigrantes se retiraban. Y el helicóptero español lo iluminaba por el campo marroquí, mientras que la... Los militares marroquíes desde el helicóptero y desde tierra disparaban.
Donc pendant que l'hélicoptère espagnol éclairait les migrants qui essayaient de repartir et de se réfugier dans la forêt, l'hélicoptère marocain leur tirait dessus.
La guardia marroquí anunció que había matado a 6 inmigrantes en la valle.
Donc ce jour-là, les autorités marocaines ont annoncé avoir tué 6 migrants.
Sin embargo, los vecinos del lado marroquí, los vecinos de la zona.
Mais les voisins de cette zone-là.
Sí, ellos decían que el campo de fútbol que tienen.
Ont raconté que le terrain de football.
Estaba completo cubierto de cuerpos, de heridos y cadáveres.
Était couvert d'un bout à l'autre de corps de blessés ou de morts, on ne sait pas.
Que cuando las ambulancias retiraron esos cuerpos, tuvieron que entrar palas excavadoras para remover la tierra de la sangre que había.
Et quand les ambulances ont évacué les corps, ils ont été obligés de venir avec des tracteurs pour retourner la terre qui était pleine de sang.
Incluso que sus coches particulares y las paredes de sus casas estaban acribilladas a balazos en muchas zonas.
Et dans ce quartier-là, les voitures et les maisons du quartier étaient criblées de balles.
De todas formas, yo la noche anterior, o sea, esa fue de madrugada, pues a las 10
c'était le matin,
de la noche.
Ça, c'était le matin, mais la veille, dans
la
nuit.
Yo vi dos muertos más en otra zona distinta, en la zona norte.
Esto moi, j'ai vu des morts dans la zone nord de Melilla.
O sea, que no son 6 muertos, por lo menos son 8, y posiblemente se pueda multiplicar ese número por 100 o 200 más.
Donc effectivement, ce n'est pas 6 morts, c'est au moins 8, et je pense qu'on peut le multiplier peut-être par 100.
Y eso solo en el límite fronterizo.
Et ça, c'est juste dans la zone de la frontière.
Más adentro, Dios sabe.
Plus à l'intérieur des terres, on ne sait pas.
Le ton est très vite monté dès la première question.
Maintenant, j'ai deux.
Tout le monde se prépare, là c'est la répétition, là c'est les copains de Ceuta et Melilla.
Et poussé, et bandit pour soi. Mama aye bacha kitembe na bana Afrika enzambe. Oh bana Afrika nzambe ya ya ule. Oh bana Afrika baye mesha ya ya ule. Oh shirake yo nanani abetali mbele. Shirake yo nanani abetali mbele. Imbele, imbele, babetali imbele.
Onzele habuka ngaloketo.
Oh mana mere, mana mere.
Mana mere habuki ngaloketo. Yes I.
La chanson là, c'est une chanson du désert. Tellement on a trop souffert au désert. Nos parents gâtaient de l'argent pour nous faire voyons en Europe. Arriver, les Européens ne veulent pas.
C'est dans le désert qu'on la compose. Pour se consoler quoi. Avec ça, on trouve un peu du moral.
Vous parlez de Chirac, c'est ça?
Ouais, Chirac, ça cousait tout le monde. C'est à cause d'eux que nous souffrons.
C'est à cause d'eux que vous souffrez en Afrique?
Ouais, c'est à cause d'eux.
Et après, et quand vous
avec
essayez de passer aussi?
Nos dirigeants même, nos propres dirigeants, ils sont complices de cette Afrique. Et la France-Afrique, sommet France-Afrique, a été complice de nos dirigeants de bouffer les milliards de zéros de l'Afrique. Et on en est marre maintenant.
On va dire que les présidents vont de sommet en sommet pendant que le peuple va d'abîme en abîme, c'est ça?
Voilà, c'est ça, t'as bien compris, monsieur. Yes, I.
Le ton est très vite monté dès la première question.
Maintenant, j'ai deux questions techniques à vous poser, s'il vous plaît.
Donc, je vais vous
répondre. Si c'est la forme, j'arrête.
Non.
Moi, je suis pas votre étudiant, je vous en prie.
C'est pas parce qu'il fait chaud qu'il faut s'énerver.
Pas le temps de respirer. Nouvelle salve d'un monsieur au fond de la salle.
Le vote de la loi anti-immigration est considéré comme une provocation, voire même une offense envers notre peuple.
Et monsieur, en tant que représentant de la France, je n'accepterai pas que le contribuable français soit traité comme vous venez de le traiter. Vous pouvez très bien dire que vous êtes en désaccord avec la politique que je mène, mais vous n'avez pas à insulter le gouvernement démocratique qui représente un pays et qui porte une politique.
On siffle la fin du match, bilan de la soirée et analyse d'un participant.
Il n'est pas venu parler à nous, Maliens, en tant que tel, et c'est ce que dommage dans ce qu'il est venu parler à son opinion en tant que candidat à la conquête, justement, de la présidence.
Le one-man show de Sarkozy à Bamako, ajoute-t-il, pour les électeurs français à 5000 km de Paris.
puisque l'homme n'est pas méchant. Et que au Mali, du côté du Mali, en tout cas, tout est fait prêt parce qu'il y a des spécialistes aujourd'hui, quand même, des musiciens qui se débrouillent bien dans tout ce que vous avez envie de faire.
Vraiment.
Et si vous tendez la main, tant bien, je pense que ça fait l'affaire, quoi.
Non, je suis prêt.
On va écouter toujours la chanson.
On a fauté. Tu as fauté.
Et je pense qu'on va plus fauter. Et c'est déjà parti. Monte à tourner la boue.
La radio à Mali, joyeuse radio, après ces extraits de la visite du ministre de l'Intérieur français à Bamako. pour annoncer, faire avaler la pilule d'un durcissement, comme disent le sentent et le vivent surtout ces Maliens concernant l'immigration. 850 millions d'Africains aujourd'hui, 2 milliards en 2050, et la moitié de ces 850 millions d'Africains vit avec moins d'un dollar par jour. L'espérance de vie en 1982 était de 50 ans sur le continent africain. Cette espérance de vie est de 48 ans aujourd'hui. Voilà, c'est quelques chiffres avec toutes les distances qu'il faut avoir avec des chiffres, mais enfin c'est quand même quelques indications. Et là, on est à Bamako avec des Africains qui se prennent en charge, qui ne sont pas dupes des détournements opérés par leurs dirigeants, qui bien souvent sont des amis du camp dominant. Pour ne pas être plus précis. Et là, voilà, il y a une réflexion. La réflexion, elle vise à comprendre et à faire comprendre à ces jeunes Africains, jeunes Maliens en l'occurrence, les raisons de leur situation, de la situation économique, sociale et politique de leur pays. Et l'animatrice, une des animatrices de ce forum, c'est, je l'ai indiqué tout à l'heure déjà, c'est Aminata Traoré.
Ce drame et ces événements sanglants et qui auraient dû interpeller l'Europe et l'Afrique de telle sorte que nous puissions envisager une autre manière de vivre ensemble, de coexister, a plutôt encouragé l'Europe à futer davantage ses armes contre les composantes les plus démunies et les plus vulnérables des sociétés africaines, les jeunes. La lutte contre l'immigration clandestine est une lutte contre les jeunes en quête d'emploi. Donc, nous souhaitons aujourd'hui que l'Afrique sorte enfin de la langue de bois, des sentiers battus, que l'Afrique soit porteuse de réponses crédibles, durables, honorables et pour l'Afrique et pour l'Europe. Nous sommes persuadés que, au lieu de cette chasse à l'homme, mais aussi à l'enfant, si on considère ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'espace Schengen, ce qui se passe à Cachan, que ce n'est pas seulement une chasse aux migrants adultes, mais même à l'enfant. Nous sommes à un tournant extrêmement grave de l'histoire de l'humanité et de l'histoire des rapports Nord-Sud. Il est de notre responsabilité, en tant qu'acteurs de la société civile, de jouer notre rôle d'interpellation, de questionnement, mais aussi de proposition d'alternatives. Le Forum pour un autre Mali s'est investi dans cette quête immédiatement après les événements de Ceuta et Melilla. Nous avons organisé une marche. Nous étions un groupe de femmes. Je salue toutes celles qui ont fait ce parcours avec moi en Europe pour dire que Nicolas Sarkozy et ses homologues se trompent de guerre et d'ennemis. Pour dire que les Africains qui vont en Europe ne sont pas des criminels, ne sont pas des terroristes. Pour dire que c'est des voyageurs, des quêteurs de passerelles et qu'ils méritent tout simplement le respect. Donc je pense que c'est la première fois que tant de refoulés se retrouvent ensemble pour prendre la parole. Donc d'ici jusqu'à samedi, nous avons toute la latitude de contrer le discours mensonger de l'Europe sur l'Afrique. Nous avons toute la latitude d'imaginer des solutions nouvelles. Nous nous devons de le faire parce que si nous ne le faisons pas, ils le feront à notre place. Donc, au bismillah.
Des effets personnels accrochés au barbelé, comme autant de témoins à la fois du drame de la nuit dernière et de la détermination de ceux qui se lancent à l'assaut de la double clôture. Ils ont pour seuls atouts ces échelles bricolées que les militaires marocains ramassent et leur nombre. Depuis plusieurs semaines, cet ensemble et au même moment que des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants se jettent contre la frontière. Une tactique pour déborder les gardes des enclaves de Ceuta et Melilla. Ils viennent d'Afrique subsaharienne, ils ont traversé le Sahara. Ils campent dans les forêts proches des enclaves avec un seul but, poser le pied sur ces petits morceaux d'Europe que sont Ceuta et Melilla.
La plupart du temps, ce sont des jeunes hommes costauds qui se lancent à l'assaut de ces frontières de plus en plus infranchissables. Pour beaucoup, c'est un devoir, c'est une nécessité d'abord, mais c'est aussi un devoir parce qu'il y a des charges familiales. On espère faire vivre aussi par ce moyen, parfois une famille, parfois un village tout entier. C'est aussi une sorte de compétition physique pour ces jeunes hommes. Et parmi ces migrants, il y a aussi des femmes. Et parmi les témoignages qui ont été donnés lors de ce forum pour un autre Mali, un forum pour les migrants. La semaine dernière, il y a deux semaines plutôt, il y a des femmes. En voici deux. L'une s'appelle Clarisse et l'autre s'appelle, comme Aminata Traoré, elle s'appelle Aminata. Écoutez leur témoignage.
Alors Clarisse, toi tu étais ici très impliquée dans ces journées commémoratives. On t'a vu faire l'interprète, la traduction simultanée, espagnol, anglais, bambara. Hein? Donc écoute, tu as été d'une efficacité redoutable. Hein?
Je ne suis pas sûre. Efficacité, le mot est peut-être trop fort. Juste que j'ai été là pour le dépannage, c'est tout. Aminata Aboussa, qui est à côté, qui est une amie. Comme on dit, une amie de galère m'a dit un jour qu'il y avait des rencontres ici pour des personnes refoulées et tout. Et tout. Je dis, moi, ces trucs, sincèrement, tout le temps, c'est des gens qui veulent nous écouter, puis ils vont faire leur petit business. Bon, j'y suis vraiment venue comme ça, hein. En me disant, j'ai une journée à perdre, je vais voir ce qui se passe là-bas. Et puis, je me suis retrouvée impliquée là-dedans. Et intéressé en même temps parce que c'était nous, quoi.
Alors quand tu dis nous, ça veut dire quoi?
C'était nous, les gens, comme on dit, les voyageurs.
Les voyageurs refoulés.
Les spécialistes du désert. C'est ce qu'on dit de nous. Bon, mais je ne suis pas une spécialiste, mais il y a des gens qui ont fait la route 10 fois. Il y a des gens qui ont fait la route 5, 6, 7 fois. Ils sont devenus des spécialistes.
Et toi, tu l'as faite combien de fois la route?
Non, je ne l'ai pas fait plusieurs fois. Je l'ai fait, je peux dire, une fois et demie. La première fois, je ne suis pas allée au bout. La deuxième fois, je suis allée au bout. Mais aujourd'hui, je ne pense pas être prête à repartir là-bas. Quoi.
Tu es partie du Cameroun, hein, c'est ça?
Ouais.
Et donc, tu ne savais pas que ça allait être aussi dur?
Non, on ne peut pas savoir que c'est aussi dur. Pas savoir que c'est aussi dur quand on va. Si on sait que c'est aussi dur, sincèrement, personne ne partira. Mais comme on veut partir, si on voit un trou, quelqu'un n'irait pas volontairement mettre son pied là-dedans pour tomber et se fracasser la jambe. C'est quand tu ne sais pas exactement. En fait, il y a une espèce de voile. Quelqu'un qui est arrivé, qui a pris ce chemin, te dit « je suis arrivé ». Mais qu'est-ce que tu te dis? C'est cool, quoi. Je peux passer par là.
Et là, depuis, ça fait un an que vous êtes à Bamako. Parce que vous refusez de rentrer dans vos pays.
C'est pas un refus, c'est une incapacité à retourner financière déjà. Parce que quand vous rentrez, on vous est dépouillé de tout. Et non seulement vous ne pouvez pas rentrer à pied, mais quand tu rentres, après tu fais quoi? Quand tu rentres, il te faut la thune, quoi. Il te faut l'argent, il te faut quelque chose pour l'investissement. Parce que tu viens, tu as laissé des petits frais, une maman, un papa, tout ça. C'est des gens qui comptent sur toi. Quand tu pars, tes voisins, tout le monde dit « Ah, elle est partie ». Ça veut dire que quelque part, tu devrais être une source.
Une ressource.
Ouais. Si tu ne l'es pas, en fait, tu as échoué. Quand tu reviens, la première semaine, peut-être, les premiers jours, les gens vont t'accepter. Mais après, ils vont te dire « Mais Pourquoi est-ce que tu étais parti? Si c'était pour y revenir dans cet état. Il faut éviter ça, c'est pour ça que les gens préfèrent, on préfère rester là. On essaie de faire des choses et d'autres en se disant que l'argent, peut-être que nous, avant, on prenait pour repartir dans le désert. Aujourd'hui, si on se refait une petite bourse, il est mieux de rentrer.
C'est tout simple. Et alors, vous vous êtes inscrite dans l'association Retour Travail et Dignité?
Ça, c'est une association malienne pour le moment. Bon, pour le moment, je pense qu'après le forum, il va se créer une association pour tout le monde. Parce que Madame Aminata, elle nous a dit, c'est pas moi qui vais le faire, mais c'est vous qui le ferez. Mmh. Je pense qu'on a les capacités.
Bon, en fait, pour nous les femmes, bon, c'est un cas, je peux dire, particulier, quoi. Durant tout l'ouvrage que nous faisons jusqu'à arriver à la frontière de l'Espagne, là, c'est pas facile. D'abord, dans des voitures, nous sommes 26, 28. Nous sommes assis comme des poissons. Comme la, vous voyez la boîte des sardines, quoi. Nous sommes, tu ne peux même pas aller. Tu as des trains, même tendre aux pieds, il n'y a pas moyen. Et si tu fais l'erreur, tu vas quitter, tu tombes là. Nous sommes dans le désert. Il y a des niveaux où on voit des corps, des squelettes, quoi. Des squelettes, là. Les squelettes sont couchés, tu ne sais pas qui. On ne peut pas les enterrer parce qu'on va creuser la terre avec. C'est le désert. On les dépose par terre, là. On met juste les cailloux au bord. S'il a son papier sur lui, on l'accroche là. Si toi tu passes peut-être, s'il n'est pas encore, je ne sais pas. S'il n'est pas encore décomposé, tu vas voir, tu peux dire, ah tiens, ou bien tu vas voir ses pièces, tu vas regarder, tu dis, tiens, je connais telle personne et tout. Oui, et tout. Mère, si le passeport, déjà le vent a emporté le passeport, le code a décomposé, tu ne saurais pas qui est qui, tu ne vois que les squelettes. On ne peut pas compter.
On ne compte pas les os, tu sauras que les os appartiennent à combien de corps, combien. On ne saura jamais.
Il y a les niveaux où la voiture tombe en panne. Le chauffeur vous dit, tiens, j'arrive. Il vous abandonne là, il va. Ah, oui, la voiture tombe en panne.
Les jeeps qui ont fait des guerres, le quoi,
il vous dit, tiens, j'arrive. On les appelle les mbouzou en général. Ils sont minces comme ça, là. Ils marchent comme, je ne sais pas, comme du désert. S'il est devant, là, tu es derrière. Après, tu regardes, tu ne le vois plus. Oui, ils marchent vite.
Quand la voiture tombe en panne, tu fais quoi? Ils sont tout puissants dans le désert. Le gars, il s'en va et puis il peut vous envoyer un autre gars qui vient vous prendre, qui vous dépouille, qui... Ça veut dire, je ne sais pas, c'est bien
comme ça. Donc, ce qui fait que la nourriture finit, l'eau finit, ça devient tout. Maintenant, là, c'est bon. On peut dire maintenant que bon, ah, ce n'est que Dieu. Là, maintenant, c'est Dieu. Il n'y a plus rien. Puis, je te donne, tu bois. Et pour boire, il faut boire par goutte, hein, s'il te plaît. Parce qu'il faut que tu bois juste un peu, ton feu aussi, bois juste un peu, ainsi de suite. Voici, peut-être, on peut trouver un peu d'eau, hein, en cours de route. Il y a un cadavre qui est couché là, on pousse le cadavre, on met à côté, on boit de l'eau, on continue. On n'a pas de choix.
L'eau, c'est l'eau. L'essentiel que ce soit liquide. C'est liquide, ça étanche la soif, tu goûtes un peu et puis tu passes à l'autre, quoi.
Donc tu sens que celui-là, vraiment, il était déjà fatigué, il était déjà à bout, quoi. Donc dès qu'il est arrivé à côté de l'eau, il a rendu l'âme. Il est là à coucher à côté de l'eau, il est mort. Mais nous, on vient, on le pousse, on le met à côté, on boit de l'eau, on boit, on continue la route, ainsi de suite. En coup de chance, on a vu une voiture qui sortait aussi des garros pour Khalid. Comme ça qu'ils nous ont porté. Et dans des conditions, le prix, si le prix c'est 30 000, tu payes 60 000, on t'abandonne là. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes en ce moment-là. Tu vois,
et vous étiez combien à marcher comme ça dans le désert?
Nous sommes 26.
26 qui étaient dans la voiture.
Ouais, c'est comme ça, c'est 25, 26 dans les voitures.
Nous sommes 26. Voilà, donc nous arrivons à Khalid et la police. La gendarmerie d'abord a les papiers et tout. Nous en sommes en Algérie. On va à la police, on nous met les cachets. Dès qu'on nous met les cachets, il faut passer maintenant à la gendarmerie. C'est pas facile. Le gendarme, pour te laisser passer, il faut que tu dois livrer ton corps. Automatiquement, il faut que tu livres ton corps. Et bon, et ce qui m'étonne trop, parce que ces gens-là, ils se disent des musulmans. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que normalement, dans la religion musulmane, est-ce qu'un homme musulman va toucher une femme qui n'est pas sa femme? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais il te touche, il dit non, si tu veux que tu te laisses passer, tu vas, allons, on va causer. Et ils ont une façon de parler, causer. Mais causer, là, c'est aller coucher. Tant que je ne cède pas, je ne te laisse pas passer. Quand je me suis mis à baler fort, ils m'ont dit que bon, amchit, ça veut dire va-t'en. Ça, c'est en arabe, amchit. Il y a un problème, même si ces Algériens-là, nous méprisent, nous renvoient chez nous parce que quand ils te prennent, et qu'est-ce qu'ils nous disent à la fin? Les Français sponsorisent pour ça. 200 euros, pas personne refoulé.
C'est une affaire d'argent. Parce qu'ils ne peuvent pas faire le sale boulot comme ça pour rien. Vous pensez qu'ils feraient le sale boulot pour rien?
Non, je ne pense pas.
récit terrifiant hein, de ces femmes qui racontent leur, cette épopée pour essayer de gagner l'Europe, ce qu'elles n'ont pas fait, avec toute la honte du retour, les mains vides. On ne peut pas rentrer au pays les mains vides, parce que souvent c'est les gens du village, la famille, qui sont cotisés pour que vous partiez, et puis qui espèrent tout de vous. Donc on trouve dans une ville comme Bamako, eh ben, des gens qui sont un peu échoués comme ça, dont les proches sont sans nouvelles, mais qui n'osent pas rentrer au village, alors, ou dans leur quartier. Alors qu'en fait, ils ont vécu cette épreuve terrible. On continue avec le récit de ces deux femmes.
Bon, quand tu réussis de là pour aller maintenant à Gorogo, ça c'est déjà la frontière Maroc-Espagne.
Donc c'est à Melilla, c'est en face de Melilla.
C'est avant les grillages.
Avant les grillages, mais c'est en face de Melilla, quoi.
Pour aller là-bas, il faut s'arranger, parce que ça, c'est encore un autre problème. Il y a les gens qui font 5 jours en route.
À pied.
À pied. Il y a les gens qui font 8 jours. Dès que le jour apparaît, vous vous cachez. Quand la nuit tombe, vous marchez. Toute la nuit, vous marchez. Dès que le jour apparaît, vous vous cachez. Et quand vous arrivez là-bas, il faut recommencer à zéro. Il faut encore ranger des tentes. Il faut arranger tout. Il faut chercher les échelles maintenant pour monter les échelles. Moi, par exemple, j'ai fait 3 mois, 8 jours là-bas. Il faut monter les échelles pour aller sauter, pour traverser la barrière. Il faut monter les échelles. Il y a 2 barrières. Quand tu passes cette barrière-là, il y a un espace. Dans les gardes civils, ils se baladent là au milieu. Parce qu'il y a l'hélice en haut là. Il y a le truc, comment on appelle ça?
L'hélicoptère.
L'hélicoptère en haut. Donc celui qui va aller déposer l'échelle, il faut qu'il fasse tout et tout. Il n'a pas plus de 2 minutes pour déposer l'échelle. Dès qu'il dépose, il rentre. Le second va déposer le deuxième. Les femmes, nous traversons d'abord avant les hommes. Quand tu traverses, si tu fais l'erreur, ça t'attrape la bille là. Tu te pends en haut comme ça là. Tu es obligé de... On vient te rattraper, on te rejette chez le Maroc. Il faut bien rire pour pouvoir raconter. Parce que le contraire, c'est...
Il faut rire comme ça pour chasser, je ne sais pas, oui.
Et nous, les femmes, tu vois, parfois, tu arrives, un homme te dit que, mais tiens, il faut donner l'argent comme ça. Tu dis d'après, il te dit que, mais toi, tu as l'argent. Tu as déjà l'argent. Que toi, tu es l'argent déjà. Tu te poses la question, mais tu es l'argent comment? Il dit, mais toi, tu es l'argent, tu ne connais pas que tu es l'argent. Là, il est en train de parler du sexe. Il y a des femmes qu'on viole. Il y a des femmes que quand l'autre entre lui coucher, l'autre lui met son sexe dans la bouche et tout et tout. Il y a tant de choses qui se passent là-bas. Tant de choses.
Ils en profitent. En fait, la plupart, c'est des illettrés, c'est des pauvres mecs qui n'ont même pas été à l'école, quoi. C'est le gars à qui on a dit, les noirs, ils viennent prendre vos boulots, les noirs, ils viennent tout vous arracher. Donc, il se dit... Par exemple, les garçons ont plus de problèmes. Ils disent que non, les femmes peuvent rester. Ils croient que toutes les filles qui viennent là-bas, c'est des putes, quoi. Nous sommes une race inférieure à eux. Peut-être, je ne sais pas de quel droit ou bien... Mais figurez-vous qu'aller en Afrique du Nord et parler avec un gars d'Afrique du Nord, il va vous dire là, les Africains. Et ils nous appellent les Africains.
Les Africains.
Eux, ils sont quoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont un continent intermédiaire. Je ne sais pas très bien comment s'appelle leur continent. Mais nous, nous sommes Africains. Nous sommes fiers d'être Africains, quoi.
Voilà, récit de cette migration, et on le voit, le renforcement des conditions d'accès à l'Europe réveille, suscite, exacerbe un racisme inter-africain. On en parlera à nouveau demain dans cette suite à Bamako. C'était un reportage d'Antoine Chao. Merci à tous, merci à Aminata Traoré, Bruno Jaffray, Samba Tambelli, Mauricio Valiant et José Palasson. À lire le livre d'Aminata Traoré, Lettre au président des Français à propos de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général, aux éditions Fayard. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, y compris la liste des repères de Là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Céline Bonhomme et Arnaud Caillet. C'est Yann Chouquet et Koye Nguyen qui ont réalisé cette émission, assistée de Pascal Pascariello et de Christophe Humbert pour le répondeur, qui attend vos observations, vos remarques, vos compliments et vos engueulades au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Et vous avez aussi comme recours contre Là-bas si j'y suis, ou pour Là-bas si j'y suis, le mail de l'émission qui est daniel.mermet. @radiofrance.com. Réclame.